Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Au rythme où ça va, démission, nomination, composition, j'ai une question. Vous souvenez-vous d'Édouard Philippe ? Il y a 3 ans, il y a une éternité, le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron prononçait son discours de politique générale. Il disait ça.
Les bonnes politiques publiques permettent de changer la vie des Français. C'est long, c'est lent, c'est difficile, mais pour reprendre les mots de Simone Veil, j'ai confiance dans notre capacité à progresser.
En gros, la pente est rude, mais j'ai confiance. 11 secondes. 3 ans plus tard, hier après-midi, devant l'Assemblée, le deuxième Premier ministre d'Emmanuel Macron, Jean Castex, a dit la même chose.
Les défis qui se présentent à nous sont immenses, mais j'ai confiance.
Défi immense, confiance, la même chose, mais au chrono, 6 secondes seulement. C'est ça le style Castex. Plus encore que l'accent, phrase courte, économie de mots. En principe, ça va durer comme ça 600 jours. Pourquoi laisse-t-on ou pas une trace dans l'histoire avec la nomination de Roselyne Bachelot, déjà le 3e ministre de la Culture sous Emmanuel Macron en 3 ans? Invité de Culture Média après 10 heures, celui qui a tenu 10 années, Jack Lang. Comment fait-on pour durer? 8 candidats validés par le CSA pour la présidence de France Télévisions, audition la semaine prochaine. Quelles sont les chances de Delphine Ernotte de se succéder? On en parle dans un quart d'heure avec 2 spécialistes médias. Les routes de l'impossible entament leur 13e saison sur France 5, destination demain soir la Jamaïque. C'est Blue Mountain et ses routes défoncées. Le producteur et le réalisateur sont nos invités. Culture Média d'été est ouvert. Bonne matinée à vous. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Place au journal des médias, au sommaire ce matin Martin.
Twitter piraté, TF1 dévoile sa rentrée, le Guardian fait une saignée, tout en est ce matin.
Vous êtes un poète ?
J'essaye avec vous.
Poilonné,
poilonné, je ne connais pas ce mot.
Ça relance, ça rehausse.
On commence.
Alors
avec
les audiences, Martin.
Alors hier, eh bien, c'est TF1 qui s'impose avec sa série Prodigal Son, 3 millions de téléspectateurs. Derrière France 3 et la carte au trésor, 11,5% du public. C'est pas mal. Score moyen, soyons honnêtes même. Et juste après, dans un mouchoir de poche, M6 avec son magazine Zone Interdite, 10,6% du public.
Culture Média. Vous avez encore des mouchoirs de poche? Ça se fait encore?
Non, plus du tout, puis c'est pas très Covid.
On commence ce journal des médias, Martin, avec Twitter, victime d'un gros piratage.
Twitter dit être en train d'examiner la situation. Des mots timides, presque pudiques, pour une arnaque de grande ampleur. Alors ce ne sont pas n'importe quel compte, Pascal, qui ont été piratés. Des comptes américains surtout. Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, encore le patron d'Amazon, l'ancien maire de New York, le compte d'Apple, le compte d'Uber. On pourrait continuer, ceux de Kanye West et Kim Kardashian. C'est la plus grande attaque de toute l'histoire de Twitter.
Que s'est-il passé exactement?
Alors sur tous ces comptes, un message demande aux internautes de verser des bitcoins. Vous savez, les bitcoins, c'est cette monnaie virtuelle. Sur le compte d'Elon Musk, par exemple, le patron excentrique de Tesla, on lit ceci. Joyeux mercredi, j'offre des bitcoins à tous mes abonnés, je double tous les paiements envoyés à l'adresse bitcoin ci-dessous, fin de citation. Ce message ne reste que quelques minutes, mais la machine infernale est lancée. Les comptes piratés sont rapidement bloqués par Twitter pour éviter bien forcément que cela ne dégénère. Pendant plus de 2 heures, Obama et les autres n'ont plus accès à Twitter, leurs mots de passe sont réinitialisés. Twitter, pendant ce temps-là, plonge en bourse.
TF1 à présent qui vient de dévoiler quelques détails sur la nouvelle saison de Koh-Lanta.
Et de 2 pour Koh-Lanta cette année. Nouvelle saison arrive dès septembre. La version All-Star vient tout juste de s'achever avec, comment l'oublier, cette victoire manquée, volée presque pour le grand Claude.
Ah, Claude.
Claude le sportif. Alors cette fois-ci, toujours des sportifs, mais on retourne avec des anonymes. Le nom de cette saison, Koh-Lanta, les 4 terres. Alors pourquoi les 4 terres, allez-vous me dire? Eh bien parce qu'il n'y aura plus 2 équipes, mais 4. 4 équipes comme les 4 coins de France. Chacun viendra défendre sa région. Il y aura les candidats venus du nord, ceux du sud, ceux de l'est, ceux de l'ouest de la France. Mais on garde les fondamentaux. Du riz midi et soir, des moustiques dès le petit déjeuner, le collier de l'immunité forcément, et puis des épreuves toujours aussi intraitables, avec les intraitables poteaux surtout qui reviennent pour la finale, même cette saison.
On continue avec la rentrée TF1, TF1 qui vient de faire une autre annonce, mais côté fiction cette fois.
Et à la rentrée, ce sera double dose de feuilleton quotidien sur la une. Il y aura dès septembre, ici, tout commence, ce sera avant Demain nous appartient. Il y aura quelques comédiens d'ailleurs de Demain nous appartient dans cette nouvelle série. Parmi eux, Clément Rémien, valeur montante de TF1. On y verra aussi Frédéric Diefenthal et Vanessa Demouy. Beaucoup de comédiens maison font également partie de la partie. Aziz Diaba, révélé dans Les Bracelets Rouges, il y était, rappelez-vous, le jeune Mehdi. Ou encore l'Espagnol Agustin Galiana, qui a été vu dans la série de TF1 Clem. On a demandé justement à Anne Viau, directrice artistique de la fiction de chez TF1, pourquoi ce casting ?
Un casting très éclectique qui à la fois accueille des jeunes talents et vraiment, à TF1, on aime être la maison des talents. Voilà, on aime faire naître des talents sur notre antenne, comme on l'a pu le faire avec Clément Rémien, par exemple, ou encore Eden Ducourant, que vous avez découvert dans Pour Sarah. Et puis aussi, des talents plus confirmés, type Vanessa Demouy ou Elsa Linguini, encore Frédéric Diefenthal. Des univers très différents, des horizons très large, très éloigné, et c'est ce qui nous plaît dans ce casting.
Et dans ce casting, ce sera aussi, Pascal, le grand retour de Francis Huster à la télévision pour, nous dit-on, une apparition spéciale.
Connaît-on l'intrigue ?
Alors, ce sera l'histoire d'une école de gastronomie dans le beau département du Gard, et les acteurs de Demain nous appartient, qui apparaîtront aussi donc dans Ici tout commence, joueront bien le même rôle dans les deux séries. Explication d'Anne Viau, toujours de TF1.
Effectivement, leurs personnages pourront faire des passerelles entre les deux séries. Demain nous appartient est aujourd'hui un véritable phénomène. On est aujourd'hui à plus de 3,8 millions de téléspectateurs, on fait de très belles performances sur les publics féminins, sur les jeunes, et c'est ce qui nous a donné envie de lancer un second feuilleton en reprenant les ingrédients qui ont fait le succès de Demain nous appartient, à savoir des intrigues très fortes, des histoires d'amour, de trahison, de vengeance.
C'est quand même un gros risque pour TF1 qui avait failli annuler sa série avec le contexte économique actuel très incertain.
Ça
J'ai
va,
eu un petit problème de respiration, vous l'avez entendu.
Ça, on a bien entendu. Je me confie. On part à l'étranger, au Royaume-Uni, le très prestigieux quotidien The Guardian taille dans ses effectifs.
180 emplois supprimés, dont 70 journalistes. Le très sérieux Guardian anticipe un trou d'air de 25 millions de livres tout de même pour cette année. Le monde des médias au Royaume-Uni qui vit depuis plusieurs jours au rythme de ces annonces fracassantes. Le Daily Mirror, le Daily Express, la BBC, tous se séparent les uns après les autres d'une partie de leurs salariés et de leur rédaction. Plus de 1100 emplois supprimés chez la BBC tout de même.
Et on finit avec LCI qui va accueillir une star suisse.
La chaîne Info de TF1 ouvre ses portes à Darius Rochebain. Alors, il n'est pas très connu encore en France, mais c'est une star en Suisse. C'est le présentateur, ou plutôt c'était le présentateur vedette du JT du soir sur la première chaîne publique suisse. Et ce, depuis 24 ans. Je viens sur LCI avec un regard extérieur, nous dit-il.
Darius Rochebain qui sera dans Culture Média lundi matin. À demain, Martin.
À demain.
Duo pour mon disque ce matin. LBB, lui, Gainsbourg. Autrement dit, Bonnie and Clyde. Belle matinée à vous sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Qui sera le prochain ou la prochaine président ou présidente de France Télévisions ? 8 candidats ont été retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont la sortante Delphine Ernotte. Audition lundi et mardi prochain, décision attendue avant le vendredi suivant, c'est-à-dire le 24 juillet. Et finalement, c'est un mandat de 5 ans et non de 2, comme le prévoyait la loi sur l'audiovisuel aujourd'hui aux oubliettes. Culture Média étudie ce matin ces 8 candidatures, forces et faiblesses. Et ce risque même à quelques pronostics, car nous sommes joueurs. Bonjour Enguerrand Renaud.
Bonjour.
Vous êtes avec le micro, on va bien vous entendre dans une seconde. Vous êtes rédacteur en chef médias et technologies au Figaro. Est-ce que vous avouez des surprises dans la liste des candidats révélés hier après-midi ou...
Oui, une.
Ah.
Oui, une, c'est Jean-Paul Philippot, qui est le patron de la RTBF, qui vient d'être reconduit à la tête de la RTBF. Ça fait 18 ans qu'il dirige cette radio-télévision belge. Et puis, il a toujours dit qu'il n'irait pas à France Télévisions. Et puis, là, il s'est dit, écoutez, c'est un défi. défi personnel, j'ai 60 ans, et si je ne le fais pas, je le regretterai. C'est un peu celui qui va un peu changer la donne.
Oui, en plus, je vous ai lu ce matin dans le Figaro, vous écrivez que si, d'aventure, hein, il est élu à la présidence de France Télé, il gardera la tête de la RTBF.
S'il n'est pas élu à France Télévisions, il garde RTBF.
J'ai mangé un mot, alors.
Oui, s'il n'est pas élu.
À vos côtés, Delphine Soulas-Gesson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste média à Stratégie. Même question, la liste était attendue ou y a-t-il certains candidats que vous n'avez pas vu venir?
En tout cas, ceux qui étaient attendus sont là. Christopher Baldelli, qui n'avait jamais confirmé qu'il serait candidat, a effectivement déposé un dossier. C'est le gros challenger de Delphine Ernotte.
Mmh. On va évidemment évoquer tous ces noms au fil de notre discussion. Il y a 8 candidats, 6 hommes, 2 femmes, des ex du service public ou du privé, un syndicaliste, un journaliste sportif, ex-footballeur professionnel, un belge, on l'a cité, un politique, candidature variée quand même. Sauf irrespect démesuré, vous en voyez qui n'ont aucune chance en Guérant?
Beaucoup. on va faire à l'inverse, on va recentrer. Il me semble que, et beaucoup de mes confrères ont titré, il y aura un duel entre Delphine Ernotte et Christopher Baldelli. Et puis, je vous dis, Jean-Paul Philippot s'est invité. C'est quelqu'un qui est très respecté. Et ouais. Surtout...
Ce sont les 3 que vous retenez,
oui,
alors.
Oui, voilà. Surtout, Jean-Paul Philippot, il avait fait un rapport, qui avait été repris par beaucoup de monde en France pour dire ce qu'il fallait faire de l'audiovisuel public.
Pauline, Soulas-Gesson, pareil. Vous gardez les mêmes? J'ai dit quelque chose qu'il fallait
Delphine.
Pas. Delphine. Ah, pardon. Mais ça vous irait bien, Pauline, en même temps.
En tout cas, le CSA a rendu en début d'année un rapport validant le bilan de Delphine Ernotte. Donc, ce serait un peu un désaveu de finalement ne pas la reconduire, alors qu'en début d'année, ils étaient satisfaits de son bilan. Donc,
oui, mais si on laisse un petit suspense, effectivement, c'est la question qui se pose, stop ou encore pour Delphine Ernotte, mais il se trouve qu'il y a d'autres candidats quand même, donc qui sont les plus sérieux? Vous avez les mêmes qu'Enguerrand Renault?
Christopher Baldelli est un candidat de taille, c'est quand même un ancien directeur général de France 2, il connaît le service public, après il est parti sur M6, sur les radios RTL. En tout cas, il a dans son projet, il a un certain nombre de priorités, comme de s'adresser aux jeunes sur l'antenne et pas seulement sur le numérique. Delphine Ernotte a eu tendance à un peu cantonner au numérique les formats à destination des jeunes. Lui dit, il faut en mettre sur l'antenne, y compris avec des fictions à destination des adolescents. Donc dans son projet, il essaye vraiment de se démarquer de Delphine Ernotte.
Mmh. À vous entendre quand même votre sous-pensée, on a l'impression que c'est joué et qu'il n'y a pas beaucoup de suspense en Guérant Renault. Est-ce qu'il y a du suspense ou alors on peut dire que c'est quasiment joué?
Non, le CSA nous réserve toujours des surprises et on les attend.
Pas tant que ça, si.
Oui, alors si on regarde, et c'est intéressant parce qu'on va faire comme l'élection du pape, on va regarder qui vote. Normalement, il y a 7 membres dans le collège. Là, il n'y en aura que 6, puisque un des membres du collège, Hervé Gotcho, se déporte, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne votera pas. Donc, il
en
reste 6. Je ne sais pas.
Ah ouais, parce qu'il est peut-être trop proche du dossier, non?
Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Trop proche d'un ou une candidate. Donc, il n'y en aura que 6.
Chiffre pair, pas pratique.
Exactement, chiffre pair, pas pratique. 6, on peut... Alors après, c'est des pronostics qui n'engagent que moi. On peut dire que Delphine Ernotte a au moins 2, voire 3 voix pour elle, précisément ce que disait Delphine, parce que le CSA a rendu un rapport en février 2020, donc le même collège a rendu un rapport disant que le bilan de Delphine Ernotte était globalement positif. C'est très difficile de se déjuger derrière en disant écoutez, c'est positif, mais on choisit quelqu'un d'autre. Donc ça va jouer comme ça. Voilà, c'est mon analyse.
Delphine ?
Même pronostic. Après, on n'est jamais à l'abri d'un projet particulièrement innovant, mais en tout cas, dans ce qu'on a commencé à voir dans les projets qui ont été publiés, il n'y a pas forcément quelque chose... un projet waouh.
Nous allons, dans un instant, vous allez pointer les points forts et aussi les points faibles du bilan de Delphine Ernotte. Ce sera aussi l'occasion de tracer les enjeux pour France Télé, une grosse machine, plus de 9000 collaborateurs et un budget de 3 milliards d'euros. On revient à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
On connaîtra donc dans moins de 8 jours le nom du futur président de France Télévisions et ce sera peut-être une présidente qui se succédera à elle-même. J'ai quand même donné le nom des 7 autres prétendants. Sandrine Roustan, ex-patronne de France 4, Michel Goldstein, ancien footballeur professionnel et chroniqueur et commentateur au service des sports de France Télévisions. Serge Chic, chargé de l'élaboration dans le passé du plan stratégique de France Télé. Jean-Paul Philippot, la RTBF, on en a déjà parlé. Christopher Baldelli, dont on a parlé aussi. Pierre-Étienne Pommier, c'est le politique du groupe, conseiller numérique du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, et Serge Siminaud qui est délégué SNJ à France Télé et qui avait déjà été candidat. Delphine Soulas-Gesson, journaliste à Stratégie, quels sont les points forts du bilan de Delphine Ernotte selon vous ?
Alors elle a déjà des bonnes audiences, même si on est sur le service public, donc ce n'est pas le seul critère à regarder. Mais en tout cas, elle a maintenu des audiences au même niveau que quand elle est arrivée, sachant qu'entre-temps, le paysage télé a évolué.
Et notamment sous confinement.
Elle a même cartonné. Bon, après, comme toutes les autres chaînes également.
C'est vrai.
Mais en tout cas, sur France 4, elle a vraiment donné une priorité au relais éducatif de France 4, qui s'est vraiment démarqué pendant le confinement. Ça, c'est quelque chose sur lequel elle espère miser pour sauver France 4.
Voilà, parce qu'on le saura dans quelques jours si France 4 est sauvée. C'est ce qu'a dit Roselyne Bachelot, la nouvelle ministre.
En tout cas, elle a construit son projet avec un France 4 qui continue et en voulant développer la priorité éducative, de la mission éducative de France 4.
Mmh. Enguerrand-Renaud, voyez-vous d'autres points forts pour Delphine Ernotte ?
Alors, il y a des points forts. Ce que disait Delphine, il y a des points faibles aussi. Hein. Elle était arrivée. J'ai relu les deux projets 2015 et 2020. Elle misait beaucoup sur l'innovation. Elle venait des télécoms, hein, donc on attendait à ce que...
Orange,
exactement. Est-ce que ça marche bien dans tout ce qui est nouvelles technologies ? Il faut avouer que c'est pas le bilan le plus extraordinaire. L'innovation n'est pas terrible. Ils ont une plateforme à la fois gratuite, hein, France.tv, qui n'est pas la meilleure. Et puis, ils ont une plateforme technique qui devrait se lancer en payant avec TF1 et M6. Mais là, ils ont pris la technologie de M6 qui est meilleure que la technologie de France Télévisions. Donc, pas terrible de ce côté-là. Deuxième point qu'il va falloir regarder, parce que ça va être important. Elle avait bien géré les finances. Hein,
compte à l'équilibre.
Exactement, compte à l'équilibre, jusqu'à aujourd'hui et le Covid. Et là, il va y avoir des problèmes. C'est-à-dire que France Télévisions devrait perdre 50 millions d'euros en 2020 et 2021 encore plus. Donc, ça va être, c'est le Covid, hein,
C'est pour tout le monde.
Exactement pour tout le monde. Mais ça va être difficile à gérer, ou pour elle, ou pour quelqu'un qui va lui succéder.
Delphine, sous la gestion.
Effectivement, déjà, en plus, l'État lui a déjà demandé beaucoup d'économies. Alors, est-ce que l'État va alléger un peu les obligations ? Elle a déjà organisé une rupture conventionnelle collectivisant 2000 départs. C'est déjà beaucoup. Je ne pense pas qu'elle puisse demander plus à son entreprise. Donc, ça va être un vrai défi de remettre les comptes à l'équilibre dans le contexte post-Covid.
Alors, j'ai remarqué quelque chose que vous n'avez pas évoqué encore. Delphine Ernotte a procédé à 2 nominations récemment, hein, Diego Bunuel au programme et Laurent Guimier à la tête de France Info, la télé. Est-ce que ça peut énerver quand même les membres du CSA ? Ça dénote d'une certaine assurance, non ?
J'allais dire au contraire.
Ah, au contraire.
Au contraire. Ouais. Au contraire. Il faut pas se leurrer, il faut pas se masquer. Hein. On est en 2020. L'année prochaine, on va rentrer en campagne électorale. Et donc, l'information sur le service public, ça devient un sujet important. Et un sujet important, le fait d'avoir nommé Laurent Guimier, qu'on connaît bien ici à Europe 1 et qu'on connaît bien à la fois chez Radio France et un peu chez France Télévisions, qu'on connaît bien partout. C'est important. C'est quelqu'un qui va ancrer, bien prendre en main l'information. Et donc ça, c'est important.
Donc de façon politique, si je vous comprends bien.
Non, pas
si,
de façon politique.
Vous avez commencé en disant c'est bientôt la présidentielle.
Non. Éviter les dérapages, qui est toujours très, 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 très compliqué. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'est important. Bunuel, au programme, il y avait un manque, hein, il y avait un trou. Il y a moins d'urgence puisque Takis Candelis est toujours au-dessus pour chapeauter tout le monde.
Delphine, on va dire quelques mots quand même du challenger, hein, puisque si je vous écoute, il y a un challenger qui s'appelle Christopher Baldelli. Quels sont ses atouts ?
Dans son programme, en tout cas, il dit que le service public va devoir innover dans les concepts. Il reproche notamment à Delphine Ernotte d'avoir remis à l'antenne des vieux concepts qui ont fait leurs preuves. Il cite Interville, le Grand Échiquier. Et il dit, voilà, il faut que le service public invente des nouvelles choses, des nouveaux concepts.
Il n'a pas tort, si.
Il n'a pas forcément tort, ouais. Effectivement. Après, l'avantage des anciens concepts, c'est qu'ils ont déjà fait leurs preuves et ils sont connus des gens. Donc, ce n'est pas forcément comme ça qu'on fait venir les jeunes téléspectateurs, mais au moins, on fait venir ceux qui connaissent déjà le concept.
Mmh. Et vous, Enguerrand Renaud, du Figaro, selon vous, les atouts de Christopher Baldelli ?
Alors, Christopher Baldelli, c'est quelqu'un qui connaît la télé, qui connaît la radio, qui est un très bon gestionnaire. Il est reconnu comme tel. C'est quelqu'un qui, effectivement, peut impulser et gérer cette maison qui est une maison importante. Vous avez dit 9 000 personnes et un budget quand même de 3 milliards. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est crédible et qui peut effectivement être un challenger très sérieux.
Est-ce que dans ces dossiers, parce que là on parle, et on a raison je pense de le faire, on parle des prétendants, des candidats, mais il y a toujours des entourages qui comptent, il y a des gens qui préparent les dossiers. Est-ce que vous avez des noms notables? Vous êtes au courant de qui est avec qui?
Ah bah, c'est le canard enchaîné qui a révélé que Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde, et dans l'entourage, alors il en dit en ticket, Christopher Baldelli, il dit pas tout à fait un ticket, mais c'est dans l'entourage.
Et ça compte quand même.
Oui, ça crédibilise à la fois un projet, mais enfin qu'il aurait pu l'écrire tout à fait seul et il était tout aussi crédible. Mais voilà, c'est des gens qui comptent dans le paysage audiovisuel français. Quoi.
En tout cas, je sais ce que vous ferez l'un et l'autre lundi et mardi prochain.
Effectivement, c'est les auditions.
Ah bah
donc,
oui,
ah
bah
les
oui.
Candidats
bah, Mirand, n'oubliez pas quand même.
Je me suis dit, est-ce que je suis en vacances ou est-ce que je regarde les auditions? Eh bien non, je vais regarder les auditions.
Bah ouais. Alors le tirage au sort de ces auditions a été effectué. La première a passé lundi 9h du matin, Sandrine Roustan, ex-France 4. Et le dernier, mardi à 16h45, Serge Siminaud, représentant du SNJ à France Télé. Une heure d'audition à suivre sur le site du CSA et le reste à huis clos. Il se passe quoi à huis clos? On ne sait pas.
Bah c'est ça. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à huis clos. Malheureusement, on ne va pas pouvoir le voir.
En tout cas, on a noté vos pronostics. Hein, et puis, vous serez démenti ou pas. C'est la loi du genre. Merci d'être passé ce matin dans Culture Média. Delphine Soulas-Gesson, journaliste média au magazine Stratégie. Et Enguerrand Renaud, rédacteur en chef média et technologie au Figaro. Belle matinée à vous. Attachez vos ceintures, nous partons dans 2 minutes sur les routes défoncées de Jamaïque, les routes de l'impossible. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
C'est une série documentaire qui démarre sa 13e saison. Pas mal. Les routes de l'impossible nous emmènent demain soir 20h50 sur France 5, numéro inédit, en Jamaïque, l'île des montagnes bleues, Blue Mountains, où à plus de 2000 mètres d'altitude, des Jamaïcains bravent des routes plus défoncées que les fumeurs de ganja du coin pour récolter l'un des cafés les plus chers au monde. Bonjour Tony Comiti.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Tony Comiti Productions. Auriez-vous parié en 2007 sur une telle longévité de cette série documentaire?
Bah, écoutez, non, hein, franchement, ça fait déjà 13 ans, hein, qu'avec le directeur de la collection, Patrice Lucchini, on a créé Les Routes de l'Impossible. Au début, on s'est dit, bon, on va faire une saison, on va faire 4 films, et puis voilà, on aura fait un peu le tour de la question. Mais et puis surtout, est-ce qu'il y aura encore des routes? En fait, au départ, on n'y croyait pas sur une série comme ça. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ben, il y avait partout dans le monde des gens qui luttent, qui au péril de leur vie pour se déplacer.
Oui, c'est ça le concept initial. Oui. C'était ça la promesse.
Ben, c'était ça la promesse, si vous voulez. Et puis surtout, alors, moi j'étais grand reporter, donc quand je suis revenu un jour de pays, je voyageais au bout du monde dans des contrées improbables. Et puis en rentrant à Paris, je voyais les gens, les Français qui râlent pour une demi-heure de retard de train ou d'avion et qui remettent tout en question, alors que dans ces pays où on a la Colombie, le Laos, les pays d'Afrique, où les gens, ben, parfois ils attendent 3 jours, 4 jours pour prendre un taxi ou un avion qui arrive jamais. Donc c'était ça un petit peu l'idée au départ.
Nous sommes des enfants gâtés. Est-ce que le concept a évolué quand même toutes ces années ou vous êtes resté scotché à la promesse du début?
Ben, en fait, les routes de l'impossible, c'est du documentaire d'aventure et de rencontres et de découvertes, et filmé surtout par des grands reporters caméramans, vous voyez. Donc, en fait, on partage la vie des gens. Si vous voulez, j'ai toujours été contre les documentaires parfois ennuyeux qui sont interview, illustration. Donc là, on fait partie de la famille des gens qu'on filme. Alors c'est un peu compliqué au départ parce que souvent ce sont des gens qui se demandent pourquoi on vient les filmer au bout du monde. Et puis finalement, ils sont assez fiers qu'on vienne s'intéresser à eux. Donc le concept, il a évolué en fonction aussi des changements climatiques. Mmh. Regardez par exemple, à un moment en Afrique, on dit on va plus pouvoir y aller parce que les routes, les Chinois sont en train de les goudronner.
Ah, donc, mauvaise nouvelle pour vous.
Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle pour nous. Sauf que les Chinois les goudronnent très mal. Ils mettent une seule couche de goudron.
Bon, ça va aller, il faut attendre un petit peu alors. Jean-Christophe Brizard, bonjour. Êtes-vous
bonjour.
Là? Oui. C'est vous qui avez réalisé le documentaire de demain soir qui a lieu en Jamaïque. Vous étiez sur le terrain?
Oui, tout à fait. En fait, je l'ai co-réalisé avec mon compère Julien Bolleuen, qui est en ce moment en tournage, donc il ne peut pas être avec nous. Mais oui, on a passé 4 semaines sur le terrain à partager le quotidien des personnes qu'on filmait.
Alors, nous sommes donc sur l'île du reggae, de la religion Rastafari, des plages sublimes sur la mer des Caraïbes et de la coolitude, mais pas que, évidemment, pays pauvre et rongé par la violence. C'est l'envers du décor que vous voulez montrer également?
On voulait montrer ce qu'est réellement la Jamaïque. Donc on s'est éloigné très vite des côtes et des zones touristiques. Il n'y avait pas encore le Covid à ce moment-là. Et pour aller à l'intérieur du pays, et on a découvert que c'était très très montagneux. En moyenne, on est à 2000 mètres d'altitude. Et qui dit montagne, dit mauvaise route.
Mmh. C'est ça, puisqu'il vous faut des routes, hein, si possible, de l'impossible. Là, en Jamaïque, vous êtes servi. Le réseau routier tel que vous le montrez est dans un état exécrable, hein, singulièrement dans les Blue Mountains à l'est.
Oui, alors que c'est presque le poumon économique de la ville, si on sort des mines de bauxite et du tourisme. Le café est quand même une ressource majeure pour le pays et pour les habitants. Mmh. Et malgré ça, les routes sont dans un état à peine praticable.
Vous avez donc rencontré un tas de personnages, souvent leur voiture lâche à cause de ces routes précisément. L'île des Montagnes Bleues, extrait.
C'est épuisant. Je suis jeune, j'ai beaucoup d'énergie, mais là je suis vraiment fatigué. Vraiment.
Ils n'ont que 15 km à parcourir. Et cela fait déjà 3 heures qu'ils triment.
Toutes les 2 minutes, on doit vérifier la batterie et rajouter de l'eau dans le radiateur. On a dû s'arrêter 10 fois ou même plus. Là, je n'ai qu'une envie, c'est d'arriver. Arriver.
Seulement, quand le moteur accepte de redémarrer, il ne tient pas plus d'un kilomètre.
Voilà la vie très difficile des cultivateurs de café, Jean-Christophe Brizard. Potentiellement, vous le disiez, c'est un café très coté, mais le récolté tient de l'exploit.
Oui, parce que on est donc en altitude. La Jamaïque, c'est un pays tropical où il y a un taux d'humidité énorme. Donc les machines et les hommes souffrent. Et ce que j'ai trouvé d'assez fou dans cette histoire, c'est que ces gens savent qu'ils cultivent un café qui est renommé dans le monde entier. On va dire que à peu près 90% de la production part au Japon. Ils ne le consomment même pas eux-mêmes. Et il est à peu près à 200 euros le kilo, pour vous donner une idée. Mmh. Et eux, ils touchent moins de 5 euros pour à peu près 5 kilos.
Ouais,
bah donc ils n'en vivent quasiment pas. Et ils savent que ce café est très cher, donc ils en sont fiers d'un côté, mais de l'autre côté, ils sont dans une pauvreté qui est presque éternelle, parce que même le cours du café a tendance à baisser. Donc ils sont malheureux de ça.
Ouais, bah malheureusement, c'est souvent, disons, la même histoire. Restez là, Jean-Christophe Brizard et Tony Comiti. Les routes de l'impossible sont en Jamaïque, du coup, nous aussi. Et Heyman, on revient.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
La Jamaïque et ses montagnes bleues, demain soir sur France 5 dans les routes de l'impossible. Nous sommes toujours avec le producteur Tony Comiti et le réalisateur Jean-Christophe Brizard. Jean-Christophe, vous avez forcément croisé des personnages attachants. Je pense notamment à DJ Flex. Alors lui, il est vraiment très très attachant, disquaire ambulant, y compris sur l'autoroute. Hein.
Il est incroyable. Il est surtout incroyable de bonne humeur, de douceur, alors que il vit dans un ghetto, l'un des plus dangereux de Kingston. Et pourtant, il arrive à donner le sourire aux gens. Il est vraiment presque dans une mission. Il y croit. Et même le soir, il organise des soirées privées, alors qu'on entendait des coups de feu autour, qu'il y avait quand même un réel danger. Lui, il dit, je donne de l'amour. Et il en était là, il était vraiment à croire à ça. Et ça donne le sourire de se dire, bon, ben voilà, même avec très peu de moyens, parce qu'il a bricolé il a créé son engin, hein, c'est une sorte de petit karting avec un moteur de moto, il peut aller jusqu'à 80 km/h sur l'autoroute, et il a mis des baffles très puissantes, et il balance le son du bon son, comme il dit, dans toutes les rues de Kingston, et les gens l'arrêtent pour lui dire, bon ben voilà, j'achète tel disque ou tel autre disque. Évidemment, tout ça, ce sont des disques piratés. C'est de la débrouille, oui, mais c'est fait avec le sourire et ça fait du bien.
Oui, pas mal de débrouille dans l'ensemble. Et tous les personnages que vous nous montrez, rencontrent pas mal de difficultés, mais ils restent cool. Comment font-ils ça?
Eh ben, c'est pas propre à la Jamaïque. J'ai découvert ça dans les autres pays que j'ai traversés pour les routes de l'impossible. Ils ont cette foi en eux et surtout ils vous disent qu'ils n'ont pas le choix, il faut avancer. S'ils doivent passer une journée pour faire 30 km, bah ils les font, c'est comme ça. Et souvent ils arrivent à en rire ou à trouver moyen de continuer d'espérer et de ne pas lâcher.
Tony Comiti, producteur, où les routes de l'impossible vont-elles nous mener en inédit cet été sur France 5? Je sais qu'il y a bientôt la Bolivie, c'est ça, mais quoi d'autre?
Alors donc la Jamaïque, le Botswana, où là on est dans le delta du Okavango, c'est juste incroyable. On partage la vie des pêcheurs parce qu'il y a une telle sécheresse que ce lac s'est réduit à une mare, pratiquement un des plus grands lacs du monde. Et les pêcheurs essayent de survivre là-dedans, ils pêchent dans la boue, ce qu'on appelle des poissons-chats, mais c'est juste spectaculaire et incroyable. On va en Mauritanie. Dans le désert de Mauritanie, où là, il fait 50 degrés. Et on suit là des caravanes et le fameux train de Mauritanie. Et on va aussi en Bolivie, où là, on est dans les Andes. On partage la vie de Lourdes et de Maria, qui sont deux chauffeuses de l'impossible. Et ça, c'est très, très rare dans le monde de trouver des femmes qui... Et surtout dans ces pays qui sont quand même assez machos, où les autres chauffeurs disent « Mais attends, reste dans ta cuisine, les routes c'est pour les hommes. » Et elles se débrouillent toutes les deux comme ça, au milieu des ravins, au milieu des éboulements. Voilà, donc on aura de Jamaïque, Botswana, Mauritanie et Bolivie. Et deux best-of, parce qu'on a décidé avec Catherine Alvarez et son équipe d'éviter les rediffusions, hein, sur toute la saison des routes de l'impossible. Donc, on avait, nous, déjà tourné ça, mais avec le confinement, on a jonglé, on a réussi à monter les films avec les réalisateurs et les monteurs.
Ça va, Tony Comiti, mais aucun tournage n'est possible en ce moment-là. Vous ne pouvez pas partir tourner.
Eh bien écoutez, la frontière s'est ouverte en Côte d'Ivoire et mon fils Charles Comiti et Julien Bolwell, qui sont deux réalisateurs, sont partis hier en Côte d'Ivoire. Après, je pense que sur d'autres pays, ça va quand même s'ouvrir. J'espère que ça va s'ouvrir. De toute manière, vous savez, ces gens-là, en Afrique par exemple, il y a des recrudescences de Ebola plus du coronavirus. Vous voyez, donc ça va être très très compliqué. Mais ces gens-là, de toute façon, virus ou pas virus, il faut bien qu'ils mangent. Donc ils continuent de se déplacer. Donc on va essayer. Et puis certaines frontières s'ouvrent pour les journalistes.
Mmh. Donc, c'est une émission coûteuse, ça coûte cher. J'imagine qu'il y a beaucoup de repérages, il y a les tournages.
Évidemment, il y a un budget. Bon, France 5 nous accompagne, le CNC nous accompagne. Donc on arrive, mais c'est surtout, c'est une émission qui s'exporte dans le monde entier. Parce que c'est un concept absolument inédit. On a essayé d'être, ils ont essayé de nous copier. Hein. Il y a des trucs faits par les Américains ou par voilà, ils ont essayé de copier, mais ils n'ont pas. Si vous voulez, les grands reporters, les reporters français, ils ont vraiment un talent immense. Tu vois que n'ont pas d'ailleurs un de nos clients qui est au Japon m'a dit mais les routes de l'impossible, il y a vraiment un savoir-faire français. Il y a un regard français que n'ont pas les Anglo-Saxons. Où tout est calculé d'avance. Nous, on va à la chasse aux séquences. On n'écrit rien à l'avance. Mmh. On repère, on trouve des personnages, mais c'est du vrai grand reportage.
Merci beaucoup à vous deux. Merci Tony Comiti, merci aussi à Jean-Christophe Brizard, réalisateur. Les routes de l'impossible, demain 20h50 sur France 5. Jamaïque, l'île des montagnes. Ah, la Jamaïque. À suivre sur Europe 1, après les infos, comment durer à la culture, au ministère de la culture. On en parle avec Jack Lang.
Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.